I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Cet épisode de Nos Ciné vous est proposé en partenariat avec Séance Radio, la radio 100% cinéma, et c'est une production Binge Audio.
Binge.
Vous allez en avoir ras-le-bol de nous. Vous êtes dit, ça va être varié, ça. Non, c'est foutu.
C'est Honoré et Dupuis. Le duo de choc.
Bonjour. C'est moi, Orson Welles. J'aime pas trop les voleurs et les fils de pute.
Salut Cénociné, votre rendez-vous avec le cinéma qui, comme tous les adolescents qui se respectent, s'est découvert à l'âge où les hormones entrent en ébullition, un tropisme finalement assez courant pour les films qui font suer du dos et des bas morceaux, bref, un goût pour l'horreur et l'épouvante qui, malgré les kilomètres de mauvais slasher et de jumpscares feignants avalés depuis, n'a jamais réellement disparu de notre radar cinéphile. Aussi régulièrement, nous prenons les chemins des salles obscures pour trembler un peu dans le noir, parfois ça marche, parfois pas. On va voir ce qu'il en est avec le choix du jour, The Strangers Pray at Night, que nous allons désosser avec le duo de dangereux maniaques réunis ici en public à l'antenne Paris, Julien Dupuis. Salut Julien.
Salut Thomas, pas de blague sur les roues là.
Non, pas à chaque fois quand même. Ah. Et David Honora, salut. Ouh. David.
C'est vous, ça n'a pas ça marché. Non, peut-être des gens dans le podcast vont sursauter dans la rue.
C'était très bien. C'est notre épisode 134, c'est parti.
Monde de merde, pourquoi il a dit ça? C'est ce que je veux savoir.
The Strangers Pray at Night, c'est donc la suite de The Strangers qui était sortie, enfin aux États-Unis, pas chez nous, en 2008, 8 ans plus tard avec non pas du tout 8 ans plus tard, qu'est-ce que je raconte, presque 10 ans plus tard avec un nouveau, je sais plus compter, avec un nouveau casting, revoilà le trio de tueurs masqués qui vient cette fois-ci tourmenter une famille d'honnêtes américains venus camper dans un parc de mobile home désert. Quelle mauvaise idée, évidemment ce ne sera pas des vacances de tout repos, vous l'avez compris.
Is Tamara home?
I think you have the wrong trailer.
Derrière la caméra, c'est Johannes Roberts. Je ne sais pas du tout si c'est comme ça qu'on prononce son nom, mais on va dire que oui, hein. Sans doute. Oui, non, Julien, tu es d'accord?
Oui, oui, c'est ça.
C'est ça. Réalisateur F, de Roadkill ou encore de In the Deep. Entre autres, au casting, on trouve Bailey Madison, Christina Hendricks, Martin Anderson.
45 Meters Down, je crois.
45 Meters Down en VO.
En VO, ah ouais, dire, c'était The Deep en français.
In the Deep en VF. Ah, deep. Tu vois, je donne le titre français un peu, parce qu'on est en France. Je sais pas si c'était le courant. Je disais au casting Bailey Madison, Christina Hendricks, Martin Anderson ou encore Emma Bellamy. Votre avis sur tout ça, messieurs? Qui se lance? Ben, allez Julien, pas, ça va être pour toi. Attends, pour toi. Je te sens inspiré.
Oui, ben écoute, moi je trouve que c'est pas mal en fait. Ce petit slasher, moi c'est un genre auquel je suis attaché, comme tout oui. Fantasticophile qui se respecte. J'aime bien les bons slashers en fait, c'est intéressant.
Ils sont plus rares qu'on peut le penser.
Ben, c'est un genre qui a un peu disparu, ça a été un peu
massacré dans les années 90.
Ben voilà, avec cette vague postmoderne un peu, à mon sens, hein, complètement conne et stérile. Et un peu réac qui était Scream et Urban Legend, tout ça, tout ce qui a pu en découler.
Urban Legend,
ouais, voilà, t'as oublié ça. Je suis heureux de te l'avoir rappelé.
Je l'ai vu au cinéma. Ouais.
C'est un film qui a un peu les défauts de ses qualités, c'est-à-dire que je pense qu'il y a une volonté déjà de prendre le genre très au sérieux, très, il n'y a pas de second degré dans le film, il n'y a pas de distance par rapport à ça, comme c'était le cas d'ailleurs dans le premier film, qui était moins un slasher qu'un home invasion en fait, qui est donc un autre sous-genre un peu particulier, on pourrait presque dire du slasher, voilà. Donc là, il y a une volonté en fait de limiter les victimes potentielles et de les incarner. Donc ils essayent de construire des personnages. Alors le gros problème du film, c'est que les personnages sont pas très intéressants et que les enjeux humains en fait du film sont pour le moins banals et puis c'est pas impliquant quoi. Enfin c'est des trucs archi revus. Il y a une ado qui fait sa petite crise d'ado. C'est pas super passionnant et du coup le film met pas mal de temps à démarrer. Mais quand il démarre, je trouve que il évite plutôt les effets chocs dont ce type de film est plombé pour jouer plus sur une espèce de Terrorland, c'est-à-dire que les mises à mort, il n'y en a pas beaucoup en fait dans le film, il y a vraiment disons 4-5 scènes vraiment de mises à mort, elles sont en général assez longues, il y en a, pour moi il y en a deux qui sont assez réussies, d'ailleurs parce que c'est long, c'est pénible, il installe en fait une vraie ambiance là-dedans et il y a une vraie douleur qui ressort et cette volonté en fait d'incarner les personnages, d'autant mieux que comme c'était le cas d'ailleurs dans le premier, il n'y a pas d'histoire en fait autour des tueurs, c'est juste une pure incarnation du mal, il y a pas de, il y a pas, eux ils n'ont pas de backstory, donc tu te retrouves dans tout ce qui fait la valeur à mon sens du slasher et qui vient de Halloween de Carpenter, qui est vraiment le film séminal du genre, qui est des personnages comme vous et moi confrontés finalement au mal, à la grande faucheuse
et
qui
il y a l'incompréhensibilité,
voilà c'est ça, confronté à la mort en fait, mais c'est comme les films de zombies,
c'est d'ailleurs dit explicitement dans le film, il y a une réplique qui dit pourquoi vous faites ça, pourquoi pas quoi.
Et moi j'aime bien ça en fait, c'est un truc que je trouve que le cinéma d'horreur a un peu perdu, par exemple dans les films de zombies aujourd'hui c'est la tendance, c'est zombies qui courent. Alors moi, c'est pas un truc de réac de dire que j'aime pas les zombies qui courent, c'est que je trouve que c'est pas très intéressant en fait. Le zombie, ce qui est intéressant, c'est que c'est une force que tu ne pourras pas arrêter de toute façon, que tu vois arriver très lentement comme la mort, quoi. Et tu sais que de toute façon, tu vas y passer au bout d'un moment parce qu'ils sont plus nombreux, que tu ne peux pas les arrêter.
Et je
trouve que dans quelques scènes de Strangers Pray at Night, qui est un film totalement perfectible par ailleurs, mais il y a quand même quelques scènes où j'ai retrouvé en fait cette sensation-là, cette peur-là, qui finalement n'est pas très présente dans le cinéma horrifique contemporain, qui est plus guidé par les Conjuring, ce genre de choses, qui joue sur un truc gothique. C'est tout à fait un autre domaine. Il y a des bonnes choses aussi là-dedans, moi je trouve. Mais c'est un autre domaine, ça c'est un peu déserté. Moi ça m'a fait plaisir en fait de retrouver ça, et c'est je dirais même que c'est assez inespéré de la part de ce réalisateur, alors pas de la part de son scénariste et producteur qui est Brian Bertino, qui était le réalisateur du premier Strangers, qui est un mec intéressant. Mais j'y reviendrai dans ma reco. Mais ce réalisateur-là, il est, moi je trouve qu'il est justement 45 Meters Down, donc In the Deep en français, était un film pour le coup très très peu intéressant, quoi.
C'était assez merdique. Oui.
Ouais, c'était assez naze, quoi. Alors qu'il y avait un concept qui aurait pu être cool. Mais voilà, je m'attendais pas à ce que le mec choisisse cette voie aussi finalement aussi radicale. Voilà.
David.
Ouais, moi je suis quand même un peu plus mitigé, voire négatif sur le film. Alors je te rejoins totalement dans le sens où je prends le truc vraiment comme un exercice de style assez épuré, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de... Enfin, il en fait pas des caisses sur des effets scénaristiques, des pseudo-twists, des thématiques surchargées ou ce genre de choses. On est vraiment pour travailler les codes du slasher et essayer de trouver des choses esthétiquement, effectivement, de travailler les mises à mort, les choses comme ça. Mon principal problème, c'est que je trouve que justement sur ce plan-là, ça manque un peu d'inventivité. Et notamment, il y a un gimmick qui est répété plusieurs fois dans le film, d'utiliser en fait de la musique pop très colorée en contraste de la scène de mise à mort. Voilà. Et donc en fait, il le fait 3, 4, 5 fois dans le film, j'ai l'impression.
Ah, il le fait 2 ou 3 fois.
Et là où ça marche plutôt pas mal la première fois, la deuxième, voilà.
Comme tous les gimmicks, ça suffit assez vite.
Mais c'est contrebalancé par contre, je trouve, sur la scénographie en fait des mises à mort. C'est-à-dire que par exemple, je trouve que la scène de la piscine où effectivement, à ce moment-là,
c'est pour moi la bonne scène.
C'est la bonne scène
plus réussie.
C'est clair, mais du coup, tu t'en fous un peu en fait qu'il y ait cette musique, qu'il aurait même pu s'en passer en fait. Mais du coup, comme il y a cette scénographie qui est quand même assez intéressante et cette mise en place, voilà.
Non, mais en fait, clairement, c'est on sent que
il y a quand même des artifices malgré tout.
Non, mais on sent qu'il y a un respect du genre et que aussi ils connaissent ses références. Enfin, il y a pas mal de citations visuelles. Enfin, je pense qu'il est assez fan de Carpenter très clairement et ça tourne beaucoup autour de ça. Il y a une scène qui cite, je pense explicitement, Massacre à la tronçonneuse. Il y a des passages comme ça. Donc il y a tout un univers référencé de bon goût, mais ma limite, c'est que du coup, ça invente pas grand-chose, et aussi ça manque un tout petit peu de variété dans l'exercice, et même parfois sur, comme disait Julien, il n'y a pas énormément de mises à mort. Il y en a une, notamment la première, qui me semble un peu expédiée, et qui, je me suis dit, peut-être que, sans spoiler, mais c'était peut-être l'interprète qui coûtait le plus cher à payer, donc il fallait faire moins de 2 jours de tournage. donc il y a un truc...
Il fallait le tuer rapidement.
Il y avait un peu cet aspect-là. Et puis, effectivement, les personnages sont
très... C'est parce qu'elle est rouquine, c'est pour ça que tu dis ça, en fait.
On a compris de qui tu parlais.
Mais voilà, en fait, sur les personnages, il y a 2 choses. C'est que, ça manque d'aspects spécifiques qui qualifient les personnages. Mmh. C'est-à-dire que, à la limite, garder ces archétypes de la fille qui fait sa crise d'adolescence et le frère, machin. Le problème, c'est que c'est pas du tout incarné dans le scénario par quelque chose de spécifique et précis. C'est-à-dire que c'est vraiment présenté comme tel. C'est elle fait une crise d'ado. On sait pas pourquoi. Il y a rien. Il y a aucune backstory. Il y a rien qui est et ce genre de petits détails, ça aurait apporté quelque chose d'intéressant, qui aurait permis de plus s'intéresser au personnage. Et puis l'autre aspect qui est aussi à mon sens un problème de scénario. En fait, moi, je passe en termes de scénario sur les choses qui, parfois d'ailleurs, à la projection, ça faisait un peu réagir la salle sur qui sont un classique du cinéma d'horreur, du prendre les mauvaises décisions, les personnages qui prennent des mauvaises décisions. Oui. Pour moi, ça passe dans les codes du genre et c'est pas si gênant. Truc, c'est-à-dire les personnages qui se séparent. Première décision, c'est on va se séparer. Du coup, voilà. Enfin,
ça, s'il y a quelqu'un qui dit je reviens tout de suite.
Ils passent pas non plus pour des abrutis
non,
complets.
Ça passe. Et du coup, en gros, ça me gêne pas. En revanche, il y a un certain nombre d'implants dans le scénario, des moments où en fait des choses sont potentiellement préparées et sur lequel il y a jamais de paiement en fait. Enfin, où on se dit ah là, il y a peut-être une idée, il y a peut-être un truc qui va venir être payé à un moment dans le scénario et en fait c'est jamais le cas et du coup c'est un petit peu décevant de ce point de vue là et on peut être un peu ennuyé par l'aspect répétitif etc mais c'est vrai qu'il y a quand même un soin esthétique que c'est filmé de manière pas dégueulasse et que les effets de peur fonctionnent plutôt pas mal en fait plus que les effets de peur, les effets d'ambiance en fait. On est quand même pris dans ce truc, ce camping de mobil-home désert. Et le film se passe entièrement la nuit. La nuit est pas si mal traitée, même s'il n'y a pas de grande idée de mise en scène ou de grande idée graphique derrière ça. C'est plutôt bien filmé de nuit. Voilà, donc c'est vraiment un pur exercice de style qui cherche, qui pète pas beaucoup plus haut que son cul. Ça, c'est pas du tout. Enfin, ça cherche pas à raconter grand chose. Mais voilà, je j'ai pas le même enthousiasme que Julien. Mais
je suis pas enthousiaste. J'ai conscience que le film est totalement perfectible.
Mais tu reconnais l'honnêteté du projet.
Oui, c'est juste que en fait, moi, j'en vois pas en fait des films comme ça aujourd'hui et puis.
On voit plus des films concept un peu cons. Voilà, je pense à Happy Birthday sur lequel on a fait une émission une catastrophe.
Et ça me fait c'est juste pour les vrais amateurs. En fait, je pense que il y aura une petite satisfaction. Après, le film va pas rester. C'est un objet assez iconoclaste finalement dans la production fantastique actuelle et qui est fait avec. Humilité, respect et une certaine connaissance en fait du genre. Donc c'est pour ça que je pense que je suis beaucoup plus tolérant que David vis-à-vis des défauts qui sont indéniables. Tout ce qu'il a dit, c'est totalement vrai. Mais voilà, du coup, c'est tout dépend de ce que vous attendez. Ça ment pas en fait. C'est ça le truc.
Ouais, ça c'est vrai. Ça reste assez honnête dans la démarche.
Vous êtes magnanime. C'est beau. Vous êtes une gentillesse. C'est ça, effectivement. Pour conclure, messieurs, comme d'hab, on va prendre quelques minutes pour une fournée de recommandations toutes fraîches. Alors, on peut rester dans l'horreur, le slasher, tout ça, tout ce qu'on aime, mais c'est pas obligé, vous le savez, vous êtes totalement libre. David, tiens, tu vas commencer.
Moi, ça m'a fait penser à... C'est un film, je pense, qui est à peu près introuvable. C'est un film de 2004 qui s'appelle Family Portraits. Et qui était une sorte de triptyque de... Il y avait 3 histoires de famille à l'intérieur du truc. Et ça m'y a fait penser, en fait, dans le sens où, en fait, au début du film, parce qu'on est vraiment concentré sur la cellule familiale américaine typique, qui aurait pu avoir un discours métaphorique là-dessus, sur ce que devient l'Amérique, ou en tout cas le symbole de la famille américaine. Comme on vient de le dire, le film ne s'embarrasse pas trop de faire ça. Et donc, Family Portraits avait cette aspiration-là, et est dans mon souvenir un des films les plus à la fois les plus traumatisants et les plus what the fuck que j'ai vu de ma vie. Je l'avais vu à l'époque, ça avait fait une sortie salle en France direct ou Espace Saint-Michel. Donc c'est le genre de truc qui c'est d'une sortie très très confidentielle.
Effectivement.
Et il y avait une recommandation sur l'affiche d'Abel Ferrara qui était présenté dessus comme le réalisateur de Driller Killer. Donc c'était une présentation spécifique d'Abel Ferrara.
C'est assez spécial.
Et voilà. Et dans un des segments, donc c'est trois, c'est comme un film à sketch, mais en trois parties. Et il y a une des trois parties où c'est un couple qui va pas très bien, et il y a un truc qui, entre le mari et la femme, qui va se faire avec un sécateur. C'est absolument horrible. Tout est filmé en plein écran. Et je vous conseille d'aller retrouver ça.
Si vous pouvez vous passer une bonne soirée en famille.
Pour voir vraiment quelque chose qui va explorer ce qu'est la famille américaine.
Jusqu'aux entrailles de la famille américaine.
Julien, je vais pas faire un truc aussi dégueulasse parce que.
Un homme respectueux.
C'est l'occasion de parler de Brian Bertino, qui est pas un grand mec. Pareil, je pense pas que ce soit un talent incroyable du cinéma fantastique contemporain, Brian Bertino, mais je trouve que c'est un mec plutôt intéressant. Donc c'est lui qui avait écrit et réalisé le premier
Strangers. Ouais.
Strangers. Il est producteur et scénariste, je crois, du deuxième. Et il a fait un film qui est sorti directement en DVD et Blu-ray l'automne dernier. Ça s'appelle The Monster. C'est un film, c'est pareil, c'est très perfectible, c'est un peu trop lent, c'est conceptuel, mais pas assez abouti en fait sur le peu d'éléments que ça offre pour être totalement satisfaisant. Mais ça reste quand même un film intéressant. C'est l'histoire d'une mère un peu branque, comme ça, un peu brisée, et sa fille qui font un road trip pour aller retrouver le père de la gamine. Et en fait, en chemin, leur voiture va être immobilisée après un accident. Et elles vont être coincées en fait dans la voiture avec une chose qui rôde en fait autour d'elles. Et les deux personnages vont devoir se réaliser, s'expliquer, retrouver un sens à leur existence, etc. Alors qu'il y a cette menace qui se fait de plus en plus pressante. C'est un film assez intéressant. C'est un film qui joue, qui se fait quand même une autre idée du fantastique. Et c'est ça que j'aime bien moi, chez Bertino, même quand il fait un found footage un peu pourri, mais il y a toujours ça. C'est-à-dire que je pense que c'est un vrai amateur du genre, et il essaye de le travailler au corps pour essayer d'en tirer quelque chose de valable. Et c'est pas inintéressant, The Monster. Je vous conseille, ça peut faire la blague pour une petite soirée. C'est pas, encore une fois, c'est pas quelque chose qui vous laissera forcément un souvenir impérissable, mais il y a des éléments intéressants dedans.
Il y a des choses à prendre. Très bien, notre temps est écoulé. Merci à tous les deux. Merci à Jules à la technique. Merci à l'Antenne Paris, au public pour l'accueil. Rendez-vous sur binge.audio, le site de notre réseau de podcast Binge Audio, pour retrouver toutes nos émissions, le programme des prochaines, les dates d'enregistrement en public, si vous aussi vous voulez venir nous voir. Puis en attendant, on vous dit à très vite. Et tout de suite, un message de notre partenaire Séance Radio.
J'adore mon boulot.
Vous êtes la crème de l'aristocratie française.
Vous avez compris ce que je vous ai dit?
Oui, cancer du poumon, inopérable.
Next épisode, c'est le nouveau rendez-vous 100% série de Séance Radio avec Charline Roux et son équipe.
On ferait mieux de rebrousser de main, les gars.
J'ai fait du mal. J'ai compromis des missions.
Des policiers français, on peut les acheter, pas les tuer.
Next épisode, le mardi à 19h sur Séance Radio, est disponible sur toutes les applications podcast.
Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Cats and cat owners deserve better than any old-fashioned litter. That's why I teamed up with scientists and veterinarians to create Pretty Litter. Its innovative crystal formula has superior odor control and weighs up to 80% less than clay litter. Pretty Litter even monitors health by changing colors to help detect early signs of potential illness. It's the world's smartest kitty litter.
Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.